Radio Okapi. Interface.
Souverain pontife de l'Église catholique romaine visite la RDC du mardi 31 janvier au vendredi 3 février, après 32 ans de la visite du Saint Jean-Paul II. La visite du pape François a un impact économique majeur, surtout du point de vue touristique. L'ampleur de cette visite en RDC reflète le rôle important joué par l'Église catholique sur le plan sanitaire, éducationnel, économique et développemental, mais aussi politique, affirme le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Chollet. Quel enjeu pour cette visite papale en RDC et quel rôle joue l'Église catholique dans ce pays au point d'accorder une si grande importance à la visite de son chef religieux? Interface reçoit dans ce numéro Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la SENCO, ainsi que Ignace Dongala, professeur d'université et auteur du livre « Mots sur les mots de la RDC », une œuvre qui analyse les discours sociopolitiques de Laurent Cardinal Mosengo. À la coordination et présentation, je suis Michel Kifindangoy. Fidèles auditeurs des radios Okapi, bienvenue dans Interface qui se penche sur le rôle de l'Église catholique dans le développement sociopolitique de la RDC, ainsi que sur les enjeux autour de la visite du pape François à Kinshasa. Tout de suite, Actu Hebdo.
Interface.
Le pape François a confirmé dimanche sa visite en RDC et au Soudan du Sud. Le souverain pontife de l'Église catholique romaine l'a dit aux fidèles de Rome venus participer à l'Angélus de dimanche 29 janvier. Pour le pape François, sa visite en RDC est justifiée par le souci de voir ce pays déchiré par des décennies de guerres dues à l'exploitation illicite des richesses retrouver la paix. On écoute le pape François.
Chers frères et sœurs, après-demain, je partirai pour voyage apostolique dans la République du Congo et dans la République du Sud-Soudan. Je remercie les autorités civiles et les évêques locaux pour les invitations pour ces visites. Je salue les populations qui m'attendent. Ces terres sont éprouvées. La République du Congo souffre surtout dans l'est du pays pour les affrontements armés et pour l'exploitation, alors que le Sud-Soudan, déchiré par des années de guerre, a hâte que les violences s'arrêtent. Des violences qui obligent beaucoup de personnes à vivre à des sans-abri et dans des conditions de grand désarroi. À vous tous, je vous demande d'accompagner mon voyage par la prière. Et je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi.
La visite du pape François en RDC est une belle opportunité de visibilité d'abord. Le pape vient avec plus ou moins 80 journalistes internationaux, ce qui constitue donc une vitrine à l'échelle internationale pour Kinshasa et pour la RDC. Les retombées de cette visite seront bénéfiques pour le pays, à coup sûr. C'est ce que nous explique Cynthia Bachizi Nabizana.
Les autorités de la RDC ont annoncé que plus ou moins 5 millions de personnes sont attendues à Kinshasa. Logements, restauration, déplacements, sans compter diverses emplettes de ces visiteurs. La visite du pape va certainement donc faire bondir les revenus touristiques et profiter à d'autres entrepreneurs locaux. C'est notamment, à titre d'exemple, ceux qui sont en charge de la confection des vêtements spécialement conçus pour l'occasion. Ce sont notamment des paniers, des t-shirts et autres objets à l'effet du souverain pontife et qui sont vendus entre 10 et 20 dollars américains, sans compter toutes les autres sociétés de sous-traitance mobilisées pour la réussite de l'événement. Les retombées de cette visite seront peut-être tant soit peu un retour sur l'investissement consenti par le gouvernement congolais qui jusque-là est resté évasif quant au budget alloué à cette visite. Nous tenons à rassurer l'opinion que tout se fait en toute modestie, sans des dépenses financières exorbitantes. exorbitante, avait précisé porte-parole du gouvernement. Mais plusieurs experts évoquent au minimum une bagatelle de quelques millions de dollars, comparaison faite aux visites papales dans d'autres pays. La venue du pape François et toute sa délégation revêt donc une importance économique majeure pour le pays.
La visite du pape François va attirer des millions de visiteurs et pèlerins à Kinshasa, ce qui constitue une aubaine pour le secteur touristique et autres, tel que l'explique le ministre du Tourisme, Moderon Simba. Il s'entretient ici avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Les agences de voyage, hôtels, restaurants, cafés, l'ensemble du secteur du tourisme bouge et déjà en termes de booking. Au niveau des hôtels à Kinshasa, je pense que si vous cherchez des chambres actuellement, vous verrez qu'à partir du 28, 29, 30, tout est booké. Et au niveau de voyage, il faut compter en interne et à l'externe. Il faut compter chez nos 9 voisins qui entourent le Congo, il y aura des délégations qui vont arriver. Et en interne, l'ensemble des provinces du Congo aura des délégations qui vont arriver. Donc, le secteur touristique est le premier bénéficiaire de ces voyages.
Alors, on peut avoir une estimation en termes de chiffres, le nombre de visiteurs attendus. Je suppose que les bénéfices se chiffrent à hauteur de millions à vous entendre parler.
Effectivement, je ne fais pas le chiffrer parce que rien que l'espace qui accueille le pape, nous attendons déjà entre 2 millions ou plus. Je vous dis, on viserait même plus de 5 millions. Mm-hmm. Vous savez que c'est la première église, sans compter les curés qui viendront pour accueillir le Saint-Père. Donc, Saint-Père est le premier bénéficiaire.
La visite du pape François suscite un tel engouement en RDC au point d'impliquer totalement le gouvernement congolais qui a même déclaré l'avant-midi de mercredi 1er février chômé et payé. Ceci témoigne de l'importance du rôle joué par l'Église catholique dans le développement socio-économique de la RDC, mais aussi dans la lutte pour les changements politiques en profondeur. Dans le domaine de la santé publique par exemple, l'Église catholique couvre plus de 45% des services de santé en RDC. En termes d'hôpitaux, des centres de santé et dispensaires. D'après le chapelain du pape François et secrétaire général de la SENCO, dans le domaine de l'éducation, l'Église catholique assure un enseignement de qualité du primaire à l'université, couvrant ainsi le tiers des services de l'éducation en RDC. Pour plus de détails, nous recevons dans cette émission Monseigneur Donatien Chollet.
Monseigneur Donatien Chollet, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'apport de l'Église catholique dans la société congolaise, surtout en ce qui concerne la santé et l'éducation?
Dans le secteur de la santé, l'Église catholique apporte énormément en République démocratique du Congo. Comme Église, nous couvrons plus ou moins 45% des services de santé dans ce pays en termes d'hôpitaux, des centres de santé, des dispensaires, avec ce que cela entraîne, la gestion de médecins, des infirmiers, etc. Et plus encore, il y a des endroits comme à Bukavu, l'église a une usine pour la fabrication des médicaments. Et dans l'ensemble, l'église catholique ne se contente pas seulement d'administrer les soins, mais dans plusieurs de ces structures de santé, il y a des services d'éducation sanitaire pour aider la population à prévenir certaines maladies avec certaines habitudes, certains comportements conseillés ou déconseillés. Dans le domaine de l'éducation, Nous avons presque 20 000 écoles et nous gérons plus ou moins 7 130 000 élèves. Nous avons plus de 206 000 classes et nous gérons plus de 272 000 enseignants. Et c'est pas peu de choses, hein. Ça peut faire légèrement un peu plus de deux tiers des services de l'éducation dans notre pays. Et comme beaucoup le reconnaissent, l'Église catholique tient à la qualité de l'enseignement. S'il y a eu même des incompréhensions qui ont fait croire que l'Église était contre la gratuité, ce qui n'était pas vrai, l'Église faisait le plaidoyer d'une gratuité qui ne sacrifie pas la qualité de l'enseignement. Et beaucoup de responsables de ce pays sont passés par l'Église catholique et beaucoup continuent à envoyer leurs élèves dans les écoles catholiques. Même les chefs spirituels d'autres confessions religieuses y envoient aussi leurs élèves. Au niveau universitaire, vous savez que l'université de Kinshasa, l'UNIKIN, est une œuvre de l'Église catholique qui, pour des raisons politiques, est récupérée par l'État. Mais à côté de cela, l'Église catholique a plusieurs universités privées, comme l'Université catholique, comme l'Université Omnium dernièrement créée à Kinshasa, comme l'Université de Bukavu, comme l'Université de Graben. Et on a une association d'ailleurs des universités catholiques du pays, où il y a aussi des facultés de médecine, où l'on forme le médecin en insistant sur une certaine éthique de travail.
Nous savons que l'Église catholique a beaucoup contribué dans la lutte contre la pauvreté en RDC, dans la prise en charge des personnes les plus vulnérables, mais aussi dans les efforts de développement de ce pays. Est-ce que vous pouvez nous décrire les actions concrètes menées par l'Église dans différents diocèses pour aider nos populations à vivre avec le minimum possible, tant soit peu, là où l'État ne peut pas apporter toutes les solutions aux problèmes de la population?
Sur le plan de la lutte contre la pauvreté, l'Église catholique fait aussi beaucoup dans ce pays. Concrètement, vous trouverez dans beaucoup de diocèses des structures d'assistance de vieilles personnes, les hommes de vieillards, la gestion des orphelinats, la prise en charge des enfants de la rue. Vous avez une contribution dans le domaine du développement qui contribue aussi à la lutte contre la pauvreté. L'entretien des routes, à beaucoup d'endroits, c'est l'Église qui s'occupe de réparer, de frayer des ponts pour faciliter le déplacement des gens et des biens. Donc je crois qu'il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Les deux derniers présidents, le président Kabila, une fois j'ai accompagné les évêques Lassenko, a reconnu que l'Église catholique était présente, même là où l'État était absent, dans les fins fonds du pays. Et dernièrement, vous avez suivi, le président Tshisekedi a donné à l'Église les moyens pour la réalisation des projets sociaux à impact visible. C'est une façon de reconnaître aussi ce travail que l'Église fait et qu'il a souvent fait avec l'aide de gouvernement ou de partenaires étrangers. Donc c'est un honneur si on peut le faire avec les moyens locaux.
Monseigneur Donatien Chollet, je vous remercie.
Je vous remercie.
L'apport de l'Église catholique en RDC ne se limite pas seulement sur le plan socio-développement, mais aussi sur le plan politique. Depuis l'accession de la RDC à l'indépendance, l'Église catholique joue un rôle de contre-pouvoir face au pouvoir politique établi afin de défendre les intérêts du petit peuple. L'implication de l'Église sur la gouvernance du pays est devenue beaucoup impactante à partir de 1990, avec la Conférence nationale souveraine conduite par l'archevêque de Kisangani, Mgr Laurent Mosengo Pasinya, devenu archevêque de Kinshasa en 2007, puis créé cardinal en 2010. Pour cerner l'apport de l'Église catholique dans la lutte pour le changement politique et l'avènement de la démocratie en RDC, nous allons décrypter les différents discours du feu cardinal Mosengo avec Ignace Ndongala, professeur d'université et auteur du livre « Mots sur le mot de la RDC ».
Professeur Ignace Ndongala, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur du livre intitulé Mots sur les mots du Congo, qui analyse les discours sociopolitiques de Laurent Cardinal Mosengo. Que pouvons-nous retenir de votre ouvrage?
Avant toute chose, je vous remercie de l'occasion que vous m'accordez de rendre compte de cet ouvrage que j'ai coécrit avec Monsieur Job Mwana Kitata. Mots sur les mots du Congo est un livre qui révèle l'importance sociale et politique des discours du cardinal Laurent Mosengo. C'est une forme de reconnaissance du travail de conscientisation de la population, de l'éducation des hommes politiques et de la moralisation de la vie politique au Congo, tel qu'amorcé par l'archevêque émérite de Kinshasa.
Dans toutes les crises de la République démocratique du Congo, l'Église catholique, à travers son prélat, apporte toujours une voix et met généralement en mal le pouvoir en place. Quelle analyse faites-vous, par exemple, des discours du cardinal Mosengo de 2011 sur les élections et 2015 sur la situation dramatique du pays?
L'Église catholique exerce une régulation religieuse du politique dont les accents varient selon plusieurs variables. Puisque vous évoquez les prélats, et donc la hiérarchie, il faut reconnaître que toutes les fonctions de leur profil et de la valeur mobilisatrice caractéristique de l'épiscopat de chaque évêque. Celle du cardinal Mosengo était la visibilité. Il est dès lors compréhensible que l'Église qui devait rayonner de la lumière du Christ et à un moment donné de son épiscopat, rebooster le militantisme chrétien. Vous évoquez le discours de 2011 et celui de 2015. Leur compréhension requiert de rappeler le contexte qui constitue leur situation des communications, c'est-à-dire les conditions socioculturelles et politiques de leur émergence. C'est le changement de la Constitution en 2011 et l'exhumation du projet de révision de l'article 220 de la Constitution en 2015. Le discours du cardinal Mosengo concerne donc les élections. En 2011, le cardinal dénonce le vol électoral et fustige la non-conformité des résultats avec la vérité des urnes et la justice. Il prend parti pour la victoire d'Étienne Tshisekedi. En 2015, le cardinal Mosengo, qui recourt à l'éthos du souverain, fait usage de son autorité morale pour stigmatiser les agissements qui ont causé mort d'hommes et interpeller les autorités politiques. Avec ces deux discours, on est en présence des textes percutants qui poussent les chrétiens à l'action.
Pour amener le pays à l'alternance démocratique, l'Église a appelé à des marches pacifiques. Comment s'est traduit l'engagement de l'Église dans la lutte à travers les discours du cardinal Mosengo du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018?
Je vous remercie pour cette question qui me permet de vous informer qu'en 2016, j'avais publié aux éditions Cartala à Paris un livre dont les titres étaient « Religion et politique en RD Congo, marche des chrétiens » et discours des évêques catholiques sur les élections. Dans cet ouvrage, j'avais distingué l'action de la hiérarchie de celle de la base. La base, animée par le comité laïque des coordinations, était à l'avant-poste des marches. La hiérarchie, quant à elle, affichait une position mitigée. Cette position s'est radicalisée, entraînant des sanctions contre certains protagonistes cléricaux. Le discours du 31 décembre 2017 manie l'ironie, le mépris, des termes forts et s'achève par un acte directif enjoignant qu'il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en RD Congo. Quant au discours du 21 janvier 2018, elle fait suite donc à la marche exigeant l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre et l'observation des conditions préalables pour des élections crédibles.
À la lumière des homélies du cardinal Laurent Mosengo, comment le prélat catholique adapte son évangile pour amener à un changement de la gouvernance dans le pays?
Les homélies du cardinal Mosengo sont mobilisatrices. Le cardinal a étudié la rhétorique. C'est un exégète dont le travail est d'interpréter les textes. Dans ses homélies, on trouve les trois fonctions de l'éloquence, à savoir enseigner, plaire, émouvoir, auxquelles l'archevêque émérite de Kinshasa ajoute l'agir.
Qu'en est-il de la lutte des prélats catholiques pour la vérité des urnes?
La vérité de Zurne est une expression qui a reçu sous la plume du cardinal Mosengo une référence discursive remarquée dont le substrat événementiel est le doute qui pèse sur les résultats des élections. Le syntagme vérité des urnes déploie son potentiel de subversion au Congo au point de devenir subversif, explosif, éminemment politique. Vous avez raison donc de parler en termes de lutte. Il s'agit d'une lutte contre une violence qui consiste à proclamer des résultats non conformes aux résultats des bulletins de vote. Je reste encore sur ma faim quant aux conséquences de ce syntagme « vérité des urnes ». Que sert-il à exiger cette vérité des urnes quand on n'a pas le courage de la proclamer? À quoi servent tous ces morts pour la vérité des urnes quand l'Église n'est pas capable de faire prévaloir cette vérité? Et
nous l'avons observé lors des élections de 2018, une certaine fragilisation de la position de la CENCO face aux résultats de la présidentielle. Pensez-vous que tous les évêques étaient d'accord avec les différentes sorties médiatiques du cardinal Mosengo?
Fragilisation de la position de la CENCO, je dirais oui et non. Il est certes qu'il y a eu un flottement dans la communication, quelques cafouillages dans les prises de position des certains évêques, une érosion de l'unité, car en dépit de l'unité de façade affichée, l'unité de l'épiscopat a été souvent postulée plutôt que réalisée. Et ici, le cas le plus désolant que je peux évoquer est l'initiative des évêques du Kassai qui avaient célébré la victoire pour reprendre leur expression d'indignes fils de leur terre, et ce, avant la promulgation officielle des résultats.
Quelle perception avez-vous du rôle joué par la CENCO dans le processus du changement politique en RDC?
La CENCO accompagne la RDC vers l'émergence d'un état de droit. Les évêques aiment ajouter, le site, un état de droit fonctionnant normalement. Fin de citation.
Quel enjeu pour la RDC de la visite du pape François à Kinshasa?
Les enjeux de la visite du pape François au Congo sont multiples, pastoraux, politiques, économiques, stratégiques. Au regard des défis et des attentes diverses des Congolais, et tenant compte de la géopolitique du pape François, je me réserve de répondre à votre question après la dite visite. J'ai hâte cependant de découvrir quel message d'espérance le pape apportera au peuple congolais. Le pape vient-il en prêtre, en lévite ou en samaritain?
Professeur Ignace Ndongala, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
La visite du souverain pontife de l'Église catholique romaine n'est pas la première en RDC. Dans les années 1980 et 1985, le pape Jean-Paul II a visité à deux reprises la RDC. Pour revenir sur les dernières visites de Saint Jean-Paul II en RDC, Alain Irung a reçu d'un grand témoin le professeur Mokonda Bonza, ancien directeur du cabinet du président Mobutu et plusieurs fois ministre au Zaïre. Suivez.
Professeur Florentin Mokonda Bonza, bonjour.
Bonjour.
Le pape François arrive à Kinshasa. Le 2 mai 1980, le pape Jean-Paul II visite l'Afrique et choisit le Zaïre comme première destination. À l'époque, où étiez-vous?
Justement, en 1980, j'étais conseiller du Premier ministre, on disait Premier commissaire d'État, André Bobolico. Le pape est arrivé, il y a eu la grande messe sur l'esplanade du Palais du Peuple, messe au cours de laquelle cinq évêques ont été ordonnés. Si mes souvenirs sont bons, il y a Monseigneur Mosengo et moi-même. J'étais au Palais du Peuple à une position où je suivais très très bien la messe.
Alors, selon vous, qu'est-ce qui a mérité au choix du pape Jean-Paul II de venir au Zaïre en 1980?
Je crois, hier comme aujourd'hui, je pense qu'il y a une raison fondamentale. Un, le Congo ou le Zaïre d'hier, c'est le plus grand pays catholique du continent africain. Deuxième raison, le travail fait par les théologiens congolais est un travail qui a été reconnu en Afrique et au Vatican.
Et à ce moment-là, déjà, si je ne me trompe pas également, on commençait à parler du rite zaïrois.
Oui,
parce que le cardinal Malula.
Oui, parce que le rite zaïrois a commencé, disons, les années 70, pendant que le concile des Vatican II se tenait. Nous chantions déjà beaucoup de chants en lingala.
Mais à ce moment-là, quel était le contexte politique et économique? On sait que quelques années avant, c'était la zaïrianisation. Est-ce que le pape n'a pas redouté tout ça au point d'aller au-delà de toutes ces considérations et venir au Zaïre?
C'est vrai qu'en ce moment-là, nous avions le parti unique. On n'était pas de communistes. Il faut aussi dire que quelques années plus tôt, il y a eu un conflit entre le pouvoir et l'Église. Ce conflit a fait que le cardinal Malula, sa résidence a été réquisitionnée et est devenue d'ailleurs le bureau de la JMPR à l'époque. Le cardinal s'est retiré à Rome, il était presque en exil. Bien sûr qu'après, il y a eu réconciliation. C'est à l'issue de cette réconciliation que l'actuel Lindongue a été construit, donc par le pouvoir, en guise de réconciliation. Je crois que le pape Jean-Paul II, lui aussi, venait d'un pays qui a connu le communisme, en Pologne. C'est aussi ce conflit-là qui a amené à la nationalisation des universités, l'université Lovanium.
En août 1985, professeur, le pape revient pratiquement au moment où le Zaïre célébrait ses 25 ans d'indépendance.
Je crois que le pape est revenu cette fois-là. C'était pour la béatification d'Anwarite, qui a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame du Saint-Rosaire de Kisangani. Au cours de ces voyages-là, j'étais ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Le président Mobutu a reçu le pape à sa résidence privée du camp Tchatchi et tous les membres du gouvernement étaient là. Mobutu.
Le pape François arrive du 31 janvier au 3 février 2023 ici à Kinshasa dans un contexte où l'Est pratiquement est à feu et à sang. Quelle est votre analyse en ce moment où le pape doit arriver ici en RDC?
Je ne suis pas dans le secret du pape. Pour ma part, je pense que le pape vient, comme je l'avais dit au début, dans ses plus grands pays catholiques d'Afrique, la République démocratique du Congo. D'après les statistiques, on doit être aujourd'hui au minimum 46 millions de catholiques. Et en Afrique, on est le tout premier pays catholique. On est en guerre, pour moi, depuis au moins 25 ans. Le contexte de la visite du pape, c'est d'un côté le contexte de guerre, et l'Église a toujours œuvré pour la paix. Donc, je peux espérer que la visite du pape pourrait peut-être apporter quelque chose au retour de la paix dans notre pays.
Professeur Florentin Mokonda-Bonza, merci d'avoir reçu Grand Témoin chez vous.
Je vous remercie aussi pour l'opportunité que vous m'avez offerte de pouvoir m'exprimer en cette veille de l'arrivée du Soudan.
Fin Un d'interface sur Radio Okapi. Cette émission vous a été produite grâce à l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, réalisé avec le concours de Alain Irung et Cynthia Bachizi sous la supervision de Martin Sebujangwe et Jean-Marc Matouaki. Cette émission vous a été coordonnée et présentée par Michel Kifindangoy. Je prends rendez-vous avec vous pour un nouveau numéro lundi prochain à 8h30. Vous pouvez écouter la rediffusion de ce numéro mercredi à 15h et à 22h. Merci de rester fidèle à Radio Okapi. Au revoir.